Donc une université que nous allons voir sur quelques angles plutôt différents, des aperçus plutôt différents. Donc on passera par la section géographie, également le campus virtuel, également le STAPS.
Sport.
Le sport, ouais, plus simplement, pourquoi se compliquer. C'est vrai qu'on a pas mal d'abréviations un peu barbares, apparemment on va en connaître d'autres avec Pascal Guérard, vous les expliquerez. Et une conseillère d'orientation au SUIO. Donc on va vous demander de faire un petit tour de table, histoire que tout le monde se présente et parle brièvement de ce qu'il est venu représenter ici à Formasart. Nous allons commencer par le professeur d'histoire géo, Moïse Tsaem.
Donc Moïse Tsaem, ATER au département de géographie.
Plus près du micro s'il vous plaît.
Voilà, Moïse Tsaem, attaché temporaire d'enseignement et de recherche au département de géographie de l'Université du Maine. Donc j'interviens dans l'enseignement de la géographie physique, notamment la composante milieu naturel et environnement. Donc il s'agit d'analyser les milieux naturels sous l'angle de l'emprise humaine. Comment est-ce que l'homme intervient sur le milieu? Donc cet enseignement se base aussi sur l'utilisation des données spatiales pour mieux analyser l'espace, pour mieux analyser les territoires et cerner l'emprise de l'homme.
Donc là, on est dans un domaine vraiment très, très précis. Donc on est amené effectivement à rencontrer en université quand on fait les études un peu plus pointues. On arrive avec une personne qui est donc conseillère d'orientation psychologue au service universitaire d'information et d'orientation, donc au Mans, à l'Université du Maine. Je vais vous demander de m'en parler un petit peu aussi.
Donc, je m'appelle Martine Houdeville, je suis conseillère d'orientation psychologue au SUIO.
Donc, même punition que les autres, bien devant le micro.
Mon travail, c'est un travail d'accompagnement de l'étudiant dans la recherche de son orientation, de son parcours, de ses spécificités, aussi bien en termes d'information, d'orientation, de bilan personnel.
Est-ce que les gens connaissent maintenant cette appellation psychologue? Parce que c'est vrai qu'avant, on s'est arrêté à CO, entre guillemets, maintenant on est passé à COP. Les gens se rendent compte de la valeur de ce statut en plus, de cette, entre guillemets, option en plus?
Je ne sais pas, mais moi, c'est ce qui sous-tend mon activité. Hein. Je suis de formation psychologue et je considère que je le suis autant quand je fais de l'information, de la pédagogie, de l'orientation et quand j'accompagne un étudiant dans l'analyse de ses difficultés, de son mal-être et de ce qui va faire sa singularité.
C'est-à-dire que brièvement, on ne peut pas enlever la composante humaine, la composante émotive, aussi non. De l'envie de s'orienter puisqu'on s'oriente selon sa personnalité,
voilà,
j'imagine.
Voilà, tout à fait.
On continue avec un autre angle de vue un peu plus précis, c'est donc le STAPS.
Oui, le STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives.
Sport, comme avait dit Nathalie.
Donc le plus connu sous le terme de STAPS ou de ce métier du sport, c'est-à-dire la filière universitaire qui forme les étudiants à l'encadrement, à la gestion et à tout ce qui a trait aux activités physiques et sportives, alors que ce soit pour les personnes sportives telles qu'on les connaît, c'est-à-dire le sport proprement dit, mais également le handicap, l'activité physique au service des handicapés, la gestion d'établissements, la gestion de structures telles que des piscines, des maisons sportives, des maisons rurales, pourquoi pas, avec connotation sportive, des centres de vacances sportifs, comme on peut rencontrer l'été, par exemple, ou au ski également.
C'est bien que vous en parliez, parce qu'effectivement, on reviendra sur ce sujet tout à l'heure au cours de ce plateau. Effectivement, l'handicap à l'université, comment ça peut se gérer, comment ça se passe, qu'est-ce qui est proposé?
L'accès des étudiants handicapés à l'université, on en reparlera certainement dans quelques instants. On va peut-être laisser Monsieur Pascal Guérard présenter l'université virtuelle. C'est un autre mode de fonctionnement d'étudier maintenant.
Pas toujours connu, effectivement.
Oui,
c'est pas le plus classique, on va dire.
Oui. Donc c'est un des services qui est proposé aux étudiants inscrits à l'Université du Maine. L'université virtuelle en Pays de la Loire est composée en fait des trois universités régionales sur une initiative financée par le Conseil régional, donc l'Université de Nantes, l'Université d'Angers, l'Université du Maine, ainsi que l'IUFM, l'Institut universitaire de formation des maîtres des Pays de la Loire. Et concrètement, pour les étudiants de l'Université du Maine, c'est deux services qui sont apportés. Un premier service qui permet aux étudiants inscrits dans des formations traditionnelles d'avoir accès à des ressources en ligne par Internet, et ce, aussi bien depuis les postes qui sont mis à la disposition dans l'Université du Maine que depuis d'autres endroits, leur micro-ordinateur chez eux avec la liaison Internet ou un cybercentre. Et le deuxième service, c'est proposer des cursus de formation complets qui sont accessibles à distance, puisque actuellement l'université du Maine a des étudiants qui suivent des cursus depuis une quarantaine de pays différents.
Et je crois savoir donc la personne qui est à côté de vous a donc effectué justement une partie de ses études par ce moyen.
Non, pas du tout.
D'accord, bah c'est pas grave. Il a fait l'Edinburgh aujourd'hui, on a une.
C'est pas grave.
Bah, je vais demander de vous présenter alors.
Oui, moi je m'appelle Verdi Joseph, je suis développeur web donc au Cavum et j'ai une fonction un peu spécifique là-bas, c'est-à-dire que je développe des outils dans un langage de programmation dynamique donc pour le web au service de l'ingénierie pédagogique. Donc je mets en place des dispositifs qui rendent service aux formations qu'on propose en ligne.
Et donc le lien, évidemment, vous travaillez avec ces outils pour l'université, j'imagine quoi.
Oui, tout à fait.
C'est directement en étroite collaboration avec eux. Il n'y a pas d'autres organismes pour lesquels vous travaillez dans ce genre de...
Non, je travaille que pour l'université, enfin, et pour l'UVPL.
Le CAVUM, c'est un service intégré à l'université qui est composé que de personnel de l'université. On représente aujourd'hui un peu le responsable qui est pris par ailleurs sur une autre manifestation aujourd'hui, qui s'appelle Guillaume U, et qui a une équipe de développeurs qui travaillent avec lui, sachant que ça peut aller de la capture vidéo, de la capture d'image à la réalisation d'animations à caractère pédagogique. Bref, c'est l'interface entre l'enseignant et la mise en ligne de son cours ou de sa formation.
J'avais une question d'ordre général. Quelle qualité doit avoir un étudiant pour intégrer l'université? Est-ce qu'il faut qu'il ait une certaine autonomie, puisque c'est un travail assez particulier?
Quelle qualité qualité, on va dire, de rigueur. Rigueur synthèse, bien sûr. Ça, je crois que c'est valable pour toutes les études.
Autonomie certainement.
Autonomie forcément, ça découle de cette rigueur, de cet esprit de synthèse. Une autonomie, être capable de travailler par soi-même, d'aller chercher l'information, donc de la curiosité. Je crois que ça aussi c'est essentiel. Le bon étudiant est celui qui sait dépasser l'enseignement qui lui est donné et aller chercher de l'information complémentaire et trier cette information.
La question justement que je voulais faire en parallèle, c'est justement au niveau du campus virtuel, bon, l'étudiant doit être autonome, se responsabiliser par rapport à son propre travail, qui évidemment, ça les jeunes le savent peut-être pas encore, mais ils vont le savoir, qui est bénéfique pour lui. Et justement, vous n'avez pas des personnes un petit peu plus âgées pour le campus virtuel qui utilisent cet outil, en sachant que peut-être que des gens plus jeunes n'ont peut-être pas encore la maturité de se dire, attends, tu bosses 8 heures par jour sur le net, après tu fais ça, tu fais ci. Est-ce que déjà, arriver à la fac, c'est un petit peu être lâché en totale liberté du cocon familial pour certains? Est-ce que en plus ce campus virtuel, c'est pas quelque chose qui peut encore plus désolidariser de l'envie d'apprendre?
Alors là, je crois qu'effectivement, vous évoquez la problématique de l'enseignement à distance en général. Et un des facteurs de réussite de l'Université du Maine, justement, dans ce domaine, c'est d'avoir dans le dispositif un accompagnement humain très fort, très prégnant. C'est-à-dire que les enseignants sont présents en permanence, sont joignables à n'importe quel moment via Internet par les étudiants. Et il y a un planning de suivi qui est, j'irais, très précis. Et l'étudiant, justement, n'est pas isolé. Je serais presque tenté de dire qu'il est presque plus suivi qu'en présentiel.
Et justement, quand on parlait d'humanité, de relations humaines, de suivi humain, est-ce que justement, en tant que conseillère d'orientation psychologue, vous avez parfois des étudiants qui sont vraiment dans la détresse, quoi? C'est-à-dire qu'ils arrivent à un ras-le-bol, à une perte de motivation, qui savent plus du tout où ils en sont, et comment ça se passe dans ces moments-là?
Ah oui, ça, vous avez toujours cette difficulté d'insertion. Tout à l'heure, je voulais ajouter en termes de qualité, des qualités humaines, de contact, de sociabilité, de développer des contacts. Quand on est à l'université, quand on est au lycée, la cloche sonne à 5h. À 5h05, vous êtes dehors. Vous restez pas sur le lycée pour étudier. Une des clés de la réussite à l'université, c'est peut-être de rester sur le campus universitaire, d'y vivre. C'est un lieu de vie. Et très souvent, les étudiants qui sont en difficulté, c'est en dehors peut-être de l'absence de sens de leurs études, peut-être une absence de projet, de perspective, une orientation par défaut parfois, mais souvent, ça a été cette solitude et cette difficulté à nouer des contacts. Hein, quand on est dans un amphi, c'est vrai qu'on peut être très seul, mais en même temps, on est entouré d'une multitude de gens et on a le droit de parler à son voisin de droite, son voisin de gauche, son voisin de devant, son voisin de derrière.
Pas trop fort, hein.
On a le droit, en dehors des cours.
Oui, j'ai pas siroté une petite bière. Ou, oui,
on a le droit d'aller à des fêtes, on a le droit de faire du sport. Et l'université du Maine est une des premières universités
sportives. On recrée un peu une famille qu'on a perdue, puis on vit sa vie d'être de jeune adulte.
Mais c'est de vivre sur le campus et très souvent, la solitude, l'absence de perspective et la solitude.
Monsieur Thiem, je voulais juste savoir, avant de donner la parole à ma collègue, également au monsieur du STAPS, Bruno Beaune, je crois, qu'est-ce que vous pensez des étudiants que vous avez en cours, justement? Comment vous pourriez les qualifier? Et qu'est-ce qu'éventuellement, sur l'étudiant, et qu'est-ce que vous pourriez lui reprocher? Quels sont justement les défauts qu'on retrouve souvent et duquel il faudrait un petit peu les prévenir en leur disant, justement, évitez ces erreurs-là ou ce comportement-là, ça vous aidera pas en faisant vos études?
Alors, les étudiants que j'ai, je trouve qu'ils sont suffisamment ouverts. Donc, ils savent...
Il y en a ici, non, c'est ça?
Oui, ils sont suffisamment ouverts. L'université, contrairement au lycée, c'est un milieu ouvert où les étudiants sont formés pour côtoyer les autres étudiants qui sont souvent d'origine assez diverse. Donc, aux qualités d'autonomie, des rigueurs, il faut ajouter l'ouverture sur le monde, l'esprit critique. Ce que l'université forme, justement...
Excusez-moi, mais parlez vraiment bien dans le micro, ce que l'on est en train de balayer en ce round.
Donc, je disais, aux qualités d'autonomie, hein, il faut ajouter l'ouverture sur le monde et l'esprit critique. Parce que, contrairement au lycée, où on forme l'élève dans l'esprit disciplinaire assez strict, parfois restreint, l'université est très ouverte et forme l'étudiant à côtoyer l'univers en général et puis à s'armer de suffisamment de recul pour analyser le monde et son évolution.
On en revient au propos de ce que vous disiez, finalement c'est une mini-société quelque part, quoi.
Oui, une mini-société mais pas ouverte, hein. Elle est ouverte, pas fermée j'allais dire, c'est une mini-société mais en même temps avec des passerelles sur l'extérieur.
Oui, l'une des caractéristiques de l'université justement, ce sont ces passerelles autant internes qu'externes. À savoir que ce n'est pas seulement des cours, ce ne sont pas seulement des enseignements, mais il y a également des services au niveau de l'université, tels que des services de documentation. Au niveau de l'université du Maine, qui est une petite université avec une taille donc très humaine, l'accès à des réseaux, à du matériel informatique pour justement aller chercher des informations, communiquer, qui est quand même bien mis au service. La possibilité de faire du sport, comme c'était dit tout à l'heure, et pas seulement du sport en tant qu'enseignement, mais également en tant que pratique personnelle, donc de rencontrer d'autres étudiants que ceux de sa propre filière, son propre amphithéâtre. Donc c'est effectivement un campus, c'est une micro-société, une micro-ville, mais une micro-ville qui n'est pas repliée sur elle-même exclusivement, qui communique avec l'extérieur et qui échange avec l'extérieur.
Est-ce qu'il y a des mélanges entre les différentes facultés, facultés de sciences, de droit, de lettres?
Il y en a forcément dans les activités communes, sport, culture, activités culturelles, activités sociales. Il y en a dans certains enseignements, mais bon, actuellement, la structure de l'université est relativement fermée sur ses composantes, sur ses enseignements. Le nouveau système type LMD vise à justement ouvrir un peu ces filières et permettre des passerelles entre les différentes composantes et différents enseignements avec des étudiants qui pourront être d'origine d'enseignements divers au sein de l'université, se retrouvant dans un même enseignement, dans une même option, etc.
Alors vous m'amenez tout de suite à transition, parlons du système LMD, qu'est-ce que c'est finalement? Parce que bon, on a vu des étudiants en grève devant leurs établissements. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
On sent que tout le monde veut se mouiller, hein.
Terrible. Ça inspire tout le monde. En fait, on est tous concernés par le changement de système et je crois que ça va vraiment apporter un plus pour l'étudiant.
Oui, alors le système LMD est une volonté au départ d'harmonisation des diplômes et des formations en termes de reconnaissance au niveau européen, c'est-à-dire la possibilité d'offrir à des étudiants dans tout l'espace européen des diplômes qui vont être reconnus de façon mutuelle. Ça, c'est la première chose. Ce sont ensuite des diplômes à caractère plus ouvert, plus évolutif, avec une forte composante disciplinaire toujours, puisqu'il faut bien qu'un diplôme débouche sur des compétences dans un domaine, mais également la possibilité d'acquérir des compétences dans d'autres domaines connexes ou complètement différents, en termes de culture générale, en termes de possibilité de... de réorientation, par exemple, d'approfondissement de cursus, d'ouverture d'esprit plus grande. Donc c'est un petit peu tout ça le LMD. Alors ce sont des mises en place qui sont pour l'instant théoriques puisque le LMD commencera seulement en septembre, qui est au titre expérimental dans certaines universités pour l'instant, mais qui offre plus de souplesse dans la formation au niveau des étudiants.
Ce que l'a dit, je voulais juste dire par rapport à ça, justement que la faculté, c'est une de ses qualités, c'est que des fois on y rentre pour faire des études de lettres, et puis finalement, tiens, on va faire une licence de géo, et puis on repart finalement, on fait une maîtrise. Enfin, je veux dire, il y a possibilité aussi des fois de basculer d'une matière à une autre quand on a les équivalences possibles pour pouvoir partir avec un cursus ou, je veux dire, des compétences approfondies ou plus costauds, on va dire, vulgairement.
Voilà. Ben, le pire dans un système éducatif, c'est quand vous rentrez dans un tunnel et que vous ne pouvez plus en sortir.
Monsieur
donc le but du LMD, c'est d'ouvrir des portes de sortie possibles, ou voire de sortie et de retour. Parce qu'on peut très bien, pendant un temps, quitter ce système, vouloir en sortir, faire autre chose, par exemple, qui pourra être réinvesti ensuite. Et le LMD, normalement, doit permettre ce type de cursus aussi. Doit permettre aussi à des professionnels, des gens qui sont investis professionnellement, de revenir dans le système universitaire, d'approfondir leurs connaissances à travers la validation de l'acquis d'expérience également.
Vous vouliez rajouter quelque chose, peut-être, monsieur?
Ouais, je crois que ça a été très complet. Moi, j'ajouterais une petite dimension, c'est qu'effectivement, ça va permettre une meilleure lecture des diplômes au plan mondial. Et en particulier, ça va permettre, pour l'accueil des étudiants étrangers et réciproquement pour l'envoi de nos étudiants français vers des universités ou des établissements de formation étrangères, une simplification des procédures. Parce qu'actuellement, il y a des dispositifs, en particulier en Europe, qui sont très hétérogènes. Et grâce au système LMD, on va parler un petit peu sur la planète, tous le même langage en termes de diplôme. Et ça, je crois qu'aussi, c'est un aspect important.
Actuellement, chaque université est autonome. Donc, vous avez en procédure d'échange à peu près autant de procédures que de pays ou que d'universités.
Voilà.
Donc le LMD, normalement, ça sera une même procédure commune à tout le monde.
Et je pense aussi qu'au niveau du LMD, il y a un meilleur accompagnement de l'étudiant. Il aura des enseignants référents, une équipe pédagogique qui devrait l'accompagner dans son parcours et justement la possibilité, comme on l'évoquait tout à l'heure, de diversifier son parcours à un moment ou à un autre. À côté d'unités d'enseignement d'ossature qui vont constituer son diplôme, il pourra choisir à partir de son semestre 5 et 6 des unités de parcours qui vont lui permettre soit de renforcer une discipline, soit de donner une direction plus pluridisciplinaire ou plus polyvalente en fonction d'un projet professionnel. Et ça, une équipe pédagogique autour de l'étudiant avec un professeur référent et une équipe et des modules d'accompagnement sur le projet d'orientation devraient être installés dans le système LMD qui permettra quelque chose de peut-être plus personnalisé au niveau de l'accompagnement de l'étudiant.
Voilà. Sur le contenu de cette réforme, LMD, je voudrais simplement préciser pour ceux qui ne le savent pas encore que L, c'est mis pour licence, M pour master et D pour doctorat. Parce que jusqu'à présent, lorsqu'on entrait à l'université, le premier diplôme de sortie, c'était le DEUG. Dorénavant, ça sera la licence en 3 ans, suivi du master et enfin du doctorat. Le master regroupe les anciennes maîtrises plus les anciennes DEA.
Et
DESS aussi.
J'ai envie de me tourner vers la personne, a priori, la plus jeune du plateau, et savoir qu'est-ce que vous avez fait comme étude, justement.
Alors moi, j'ai suivi un DUT par alternance en CERECOM, Service et Réseaux de Communication, à l'IUT de Laval. Donc c'est un IUT qui est regroupé sous la bannière Université du Maine.
Et je te coupe juste, mais c'est donc justement un aspect de l'université, l'IUT, qui est un petit peu différent justement de la fac en elle-même.
J'ai pas connu la fac, donc je pourrais pas vous dire quelles sont les différences.
Justement, quelles sont les... Si tu peux témoigner de ça.
C'est plus encadré peut-être au niveau de l'IUT qu'à la faculté.
C'est beaucoup plus... c'est comparable à un BTS, puisqu'on est en classe, on n'est pas en amphithéâtre. Il y a très peu de grandes salles de cours avec des cours magistraux ou...
Le fossé entre le lycée finalement et l'IUT ou le lycée...
La finalité de l'université, c'est la recherche, c'est l'enseignement, c'est la recherche, c'est-à-dire former des gens vers le master, le doctorat ensuite. L'IUT, c'est une finalité professionnelle directe. Et c'est vrai que quand on rentre à l'université sur des cursus généralistes, on ne forme pas à une profession, à un métier, on donne des aptitudes pour aller vers un métier. L'IUT, lui, forme vers un métier. Je crois que c'est aussi une des grandes différences.
que l'entonnoir entre guillemets est plus court quoi, et le temps est plus court également, et on garde un petit peu, donc c'est vrai que pour les gens qui ne connaîtraient pas, on garde un peu cette idée entre guillemets lycée quoi, cette idée de promo, de classe, de, oui, de prof un petit peu attitré, voilà. De, d'endroits plus restreints, et voilà.
Merci à tous d'avoir, d'avoir participé.
J'aurais deux petits points à rajouter quand même, parce que tout à l'heure, dans ce qui a été évoqué sur le monde de l'université, moi, il y a des aspects qui me paraissent fondamentaux. C'est qu'effectivement, l'université, c'est une communauté. Alors, la notion de communauté est importante. On l'a recréée, nous, de manière artificielle, enfin, entre guillemets, dans les systèmes de, d'enseignement à distance, par des regroupements des étudiants entre eux, mais aussi, et tout à l'heure, vous parliez de fête étudiant pour les étudiants qui sont sur le campus, mais il est intéressant de voir que, par exemple, les étudiants qui sont à distance vont se retrouver de temps en temps pour faire des chats ensemble parce que ils sont sur ils sont sur 30 pays différents, donc ils vont se retrouver. Alors le plus dur pour eux, ça va être de s'entendre sur l'heure à laquelle ils vont se retrouver parce qu'il y a des décalages horaires
à gérer. L'alcool boire éventuellement parce
discuter éventuellement de leur vie personnelle ou de leur vie universitaire. Dans le cadre de l'ouverture de l'université aussi vers le monde extérieur, il faut voir que maintenant, par exemple, les ressources de la bibliothèque universitaire, aujourd'hui, s'ouvrent de plus en plus au monde extérieur. C'est que non seulement on peut venir consulter un ouvrage à l'université, à la bibliothèque universitaire, mais on peut aussi regarder en Internet, sur Internet, savoir si cet ouvrage est disponible, donc faire une recherche de documents sur l'université, savoir si on peut venir le chercher s'il est disponible, et puis pour un chantier qu'on est en train de développer justement avec la bibliothèque universitaire, l'accès à distance, pour que l'étudiant, une fois qu'il est rentré chez lui le soir à 22h, s'il a besoin d'accéder à un document, il n'ait pas besoin d'attendre le lendemain matin pour revenir à la BU pour le chercher, mais qu'il puisse y avoir accès par Internet.
Il n'y a pas par exemple de fichier dans cet ordre d'idée qui pourrait permettre aussi à l'étudiant de savoir entre guillemets, sans nuire à l'intimité, quel étudiant a travaillé sur ce sujet ou sur ce livre et quel étudiant éventuellement il pourrait rencontrer dans un forum, dans un chat pour communiquer avec lui sur ce sujet.
Oui, alors ça c'est fait au niveau aujourd'hui des dispositifs de formation qui sont à distance. Parce que là on travaille sur des groupes qui en général dépassent par promotion rarement la cinquantaine de personnes. Donc il y a vraiment un contact direct qui peut s'établir entre toutes les personnes
c'est
de la formation.
C'est la communauté web vraiment.
C'est
là.
Vraiment une communauté. Hein. Et je crois que ça c'est important. En présentiel c'est un petit peu plus dur à réaliser. Hein.
C'est les quelques points que vous vouliez préciser monsieur Garde.
Comment ?
Les seuls points que vous vouliez préciser ?
Oui, un autre point quand même, parce que c'est une question qui est souvent posée par rapport aux diplômes qui sont préparés dans ces dispositifs à distance, c'était la valeur de ces diplômes. Alors, ce sont exactement les mêmes diplômes que ceux qui sont faits en présentiel dans l'université, et d'ailleurs, généralement, les partiels se déroulent au même moment, dans le même lieu si ça le permet, ou quelquefois dans des établissements relais avec lesquels l'université du Maine a des accords. Je pense à des universités au Vietnam ou en Thaïlande actuellement, où on, par exemple on va passer à la même date qu'au Mans la licence, les épreuves de la licence de chimie de l'université du Maine.
Ce sont des diplômes de l'université du Maine.
Et ce sont des diplômes de l'université du Maine à part entière, et qui sont des diplômes nationaux, que ce soit des licences maîtrise, des ESS aujourd'hui et demain master.
Et sur le marché du travail, justement, est-ce que les employeurs, est-ce qu'ils jouent le jeu ? Est-ce qu'ils ont conscience que ça a la même
crédibilité,
valeur ?
Donc. Mmh.
Alors, les employeurs, ils jouent le jeu. Certains jouent le jeu, effectivement, et donnent des disponibilités horaires pour les personnes qui sont engagées dans ces dispositifs de formation à distance. Mais bien souvent, c'est une démarche personnelle. Et on a même, je dirais, dans la moitié des cas, une demande de l'étudiant qui ne souhaite pas du tout que son entreprise soit au courant de sa démarche. Parce qu'effectivement, il va obtenir un diplôme avec des compétences complémentaires et que l'entreprise dans laquelle il est ne pourra pas nécessairement la valoriser, cette nouvelle compétences, et ça veut dire que cette personne en fait elle est en train de préparer son devenir professionnel éventuellement à l'extérieur de sa propre entreprise.